Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
In My Shoes.
Le mot lesbienne est loin d'être un mot banalisé. Il reste encore très connoté et stéréotypé. Si l'on en croit la récente étude IFOP L'Autre Cercle, les discriminations ou la lesbophobie existent bien dans le monde professionnel où seul un tiers des femmes lesbiennes est visible de l'intégralité de ses supérieurs. C'est pourquoi notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Visibilité lesbienne, bien nommée pour exister » et nous allons décrypter comment les femmes sont stigmatisées suivant leur orientation sexuelle et les renoncements que cela entraîne.
La société finalement est quand même assez oppressive et assez normative, donc c'est compliqué en tant que lesbienne d'abord d'avoir ce coming in, d'être honnête vis-à-vis de soi-même, en capacité de se dire les choses, de les vivre et d'en être satisfaite. Et ensuite, il y a le regard des autres. Et donc, au-delà, finalement, des enjeux de travail, il y a même la place dans la société. Est-ce que je suis en capacité, par la suite, d'accéder à un poste de la même qualité qu'une femme qui n'aurait pas eu à faire son coming out ?
Notre invitée aujourd'hui est Fanchon Maillodon-Courtel. Après avoir été professeure des écoles dans l'éducation nationale, son appétit naturel pour les nouvelles technologies l'a orientée vers les entreprises de la tech, dans le web développement et la data. Mais notre invitée est avant tout une jeune activiste. Elle a fait changer l'algorithme du moteur de recherche Google pour que les résultats qui apparaissent à la requête lesbienne ne soient pas systématiquement pornographiques. Elle se bat aujourd'hui contre la présomption d'hétérosexualité dans les démarches administratives et participe à de nombreuses conférences et prises de parole. Elle est aussi rôle modèle LGBT+, de l'autre cercle. Fanchon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connue comme activiste pour avoir fait plier Google. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire quand même.
L'histoire, au départ, elle n'est pas aussi grandiloquente que ça. Ça raconte surtout l'histoire d'une personne qui vit intimement, finalement, la discrimination au quotidien, une discrimination systématique, algorithmique, de la part de Google lorsque... je voulais faire des recherches sur mon orientation romantique, être rassurée, avoir des contenus qui me disent tu peux rencontrer ta petite copine là, qu'est-ce que ça fait d'avoir un premier rencard, des choses comme ça. Eh bien, de tomber exclusivement sur la pornographie quand on tape le mot lesbienne. Ça raconte ça comme histoire d'abord. Et ensuite, ça raconte cette révolte à un moment où je venais d'avoir 30 ans, j'allais me marier, je vivais pleinement heureuse. Et donc un soir, en fait, un sentiment de révolte. Et j'ai lancé un tweet comme on faisait à l'époque sur Twitter pour dénoncer cette pratique. Et ça a été immédiatement en fait repris par les médias. Donc j'ai bénéficié quelque part d'une incroyable synchronicité qui a fait que, par la suite, j'ai pris mes responsabilités et j'ai créé un mouvement. Et mon idée derrière tout ça, c'était de contribuer à faire changer le référencement du mot lesbienne. Tout ça, ça s'est passé en 2019. Moi, j'ai travaillé pas mal dans le marketing digital. Et donc, finalement, les techniques de SEO, de Search Engine Optimization, c'était des choses que moi, je faisais à but mercantile. Et donc, je faisais beaucoup de recherches sémantiques. Et c'est aussi lié à mon expérience personnelle. J'ai toujours adoré faire des recherches sur Internet. Google, c'était mon meilleur pote, quoi.
Quand on se confronte à Google, comment ça se passe ? Est-ce que, d'ailleurs, il y a des réactions de Google ?
Mon objectif, c'était d'abord de démontrer en fait qu'il y avait un problème. C'était aussi un outil formidable, et ça, on oublie souvent de le dire. Mais ça m'a permis aussi de montrer de manière tangible en fait les discriminations dont font l'objet les lesbiennes dans l'espace public. Et donc, avec une capture écran, montrer aux personnes. Mais mon objectif, il était aussi d'alerter sur un peu une folie, c'est-à-dire qu'à la fois Google, qui est cette entreprise avec une politique RH extrêmement inclusive, finalement c'est un peu un emballement médiatique qui a fait pencher la balance. Et Google a fini par corriger l'algorithme et à faire en sorte qu'on ait moins de résultats pornographiques lorsque l'on tape le mot lesbienne sur Google.
Le résultat final, c'est que ça a modifié des choses.
Ce qui était intéressant, c'est que tout au long du combat que j'ai mené et à chaque fois que je me confrontais finalement à la communauté tech, d'abord en prenant la parole en tant que femme, en prenant la parole en tant que lesbienne, je me suis pris beaucoup d'attaques. Et notamment, moi j'ai trouvé ça hallucinant que des professionnels du métier méconnaissent autant en fait les fonctionnements et les rouages des algorithmes. Et ça, c'était un espèce de postulat inattaquable.
Affirmer, militer, c'est une chose. Se dévoiler, c'en est une autre. Votre orientation sexuelle, est-ce qu'elle a fait l'objet de discrimination dans votre milieu professionnel et sous quelle forme ?
Alors, j'ai eu beaucoup de milieux professionnels parce que j'ai navigué pas mal à vue pour trouver ma carrière, pour trouver ce que je voulais faire. Au début, moi, j'ai commencé dans une carrière de métier plutôt liée à l'éducation. Donc, j'ai travaillé dans l'éducation nationale et j'ai travaillé dans l'éducation populaire. Et moi, j'ai été outée dans l'éducation nationale. Ça s'est très mal passé. Par la suite, en fait, je me suis promise à moi-même de ne plus jamais, finalement, mentir par omission. J'ai le sentiment quand même que le fait de m'être caché, de ne pas l'avoir dit, d'avoir menti par omission, ça m'avait finalement plus atteint que si je l'avais dit. Je pense que ça a été... voilà. Et par la suite, j'ai travaillé plutôt dans des secteurs technologiques, de start-up, etc. Et oui, je le disais en entretien.
Je crois qu'en plus, vous avez eu une carrière avec des changements de poste assez fréquents. Donc, ça veut dire qu'on fait son coming out à chaque fois ?
Alors oui, en l'occurrence, moi, j'ai fait mon coming out plus de 20 fois. Et finalement, à chaque fois, en fait, il y a une nécessité de faire son coming out. Mais pas forcément de manière consciente. Hein. Ça peut être simplement... moi, j'ai tendance à faire de mon coming out un non-événement. C'est-à-dire, tu fais quoi ce soir ? Je rentre, je dîne avec ma femme. Voilà.
Enfin, donc, le message est clair.
Le message est clair. Mais je le dis pas pour cette raison-là. Je le dis simplement parce que c'est une part qui est importante de ma vie. Ça fait 11 ans que je suis avec ma femme. C'est une personne qui est importante dans ma vie. Donc, je me vois pas ne pas le dire, en fait... puis elle est géniale, quoi. Enfin, je veux pas la cacher, quoi.
Si on parle chiffres, en France, étonnamment, d'ailleurs, ou pas, vous allez me dire, seulement un tiers des lesbiennes sont visibles par leurs supérieurs. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que c'est lié à des secteurs qui sont très masculins ? Est-ce que c'est lié à la volonté de ne pas révéler les choses ?
Je pense qu'il y a deux éléments qui sont intéressants d'analyse, en tout cas, qui peuvent aider à la compréhension. Tout simplement, sur les typologies de postes. Aujourd'hui, on le sait, les femmes, pour de multiples facteurs, vont avoir des postes moins élevés, en tout cas être dans des postes, à un moment donné on parle de plafond de verre, etc. Mais disons que si on n'est pas C-level, la confiance dans son métier, l'exposition à la précarité fait que on n'a pas forcément, on ne sait pas comment vont réagir les supérieurs, et donc on n'a pas cette assurance qu'on peut avoir quand on est cadre sup, en fait. Quand on a la capacité, parce qu'on a fait les études qui, parce qu'on a le réseau qui. Et ça, je pense que c'est beaucoup aussi lié, oui, dans les milieux masculins, y a un peu un entre-soi. Et il suffit qu'on soit dans une industrie aussi où c'est très masculin, on n'a pas envie d'être exposé aussi doublement à la fois à la lesbophobie, mais également au sexisme, tout simplement. Parce que finalement, c'est déjà des choses qu'on vit au quotidien. Déjà, le sexisme, sans même parler de son orientation, ça ne donne pas nécessairement envie d'aller sur ce terrain-là.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une grande invisibilité, justement, dans les entreprises de la part des lesbiennes ?
Complètement. Je pense qu'il y a une vraie invisibilité des lesbiennes dans les entreprises. Je ne me sens pas toujours représentée, moi, sous le terme et sous le drapeau gay. Il y a des combats sur lesquels je suis complètement alignée, même dans le milieu associatif. Je ne me sens pas toujours représentée par les associations gays, par les initiatives gays. Et aujourd'hui, oui, les lesbiennes, d'abord, il y a moins de pouvoir économique. Et quand même, l'argent, ça reste le nerf de la guerre pour la visibilité. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il faut du temps pour pouvoir militer. Il faut avoir du temps, mais pour avoir du temps, il faut de l'argent. Aujourd'hui, le seul moyen, finalement, quand on a une initiative lesbienne à mettre en forme, c'est le fonds de dotation européen lesbien. Mais à part ça, il n'y a rien, en fait. Aujourd'hui, véritablement dédié et financièrement clivant qui aide les lesbiennes, il n'y a pas grand-chose.
Est-ce qu'il y a un rôle des RH particulier à avoir là-dessus ?
Il y a un rôle de contrôle de la sémantique. Pour moi, vraiment, aujourd'hui, les... du fait d'Internet, parce que également les entreprises ont des intranets. Il y a un enjeu relatif à la sémantique. Quand on ne trouve pas le contenu qui est dédié, quand les termes sont finalement des périphrases utilisées pour désigner les lesbiennes, eh bien, on invisibilise. Il peut y avoir du contenu qui est créé, mais ce contenu-là, s'il n'est pas référencé sur le bon terme, il l'invisibilise de facto. Et je pense qu'il y a une certaine frilosité quand même de la part de certains RH, même dans des grands groupes qui sont engagés sur des enjeux LGBT, d'utiliser le terme lesbienne, qui est encore malheureusement finalement confisqué dans les cerveaux des gens, confisqué par l'industrie pornographique encore aujourd'hui. parce qu'associée tellement durant de nombreuses années à des contenus exclusivement pornographiques, c'est très 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 récent que le terme commence à être moins connoté. Mais il l'est toujours.
Selon une étude Voilà l'autre cercle récente, 53% des femmes lesbiennes ont fait l'objet de discriminations. À quoi ça ressemble ces discriminations ?
Les discriminations administratives, elles sont récurrentes, elles sont quotidiennes. Typiquement, c'est une entreprise qui, pour des raisons RH, va énormément communiquer sur le congé paternité. Or, le congé paternité, en fait, il ne s'arrête pas là. Il a un nom en entier. C'est congé paternité et d'accueil de l'enfant. Vous pouvez chercher sur Internet. C'est ça son nom en entier. Et quand on occulte l'accueil de l'enfant, cette petite phrase-là, on invisibilise les seconds parents, les mères qui n'ont pas porté leur enfant. Et pour autant, hein, ces mères-là, elles ont bien envie de rester aussi avec leurs enfants. Et je parle de moi aussi parce que j'ai été confrontée récemment à ces enjeux-là, parce que je suis devenue mère il y a 17 mois. Et en fait, ces discriminations, elles sont tellement inscrites finalement dans la société que, par exemple, j'ai touché des indemnités journalières de congés paternité de la sécurité sociale. Il y a de vraies discriminations, comme par exemple le fait de ne pas être out dans son entreprise, et donc pour cette raison-là, s'interdire de bénéficier d'une crèche d'entreprise, parce qu'il faut dévoiler du coup qu'on n'a pas été enceinte et que quand même on a un enfant, ou qu'on est un couple d'hommes et qu'on n'est pas encore le père officiel légalement, parce qu'on a eu recours à la GPA qui est interdite en France, et donc on ne sait pas si légalement on va pouvoir faire venir son enfant sur la crèche d'entreprise puisqu'on n'est pas le père officiel. Il y a plein d'enjeux comme ça. S'interdire les chèques cadeaux pour le conjoint, la conjointe, la mutuelle d'entreprise. Ça, c'est un vrai enjeu. On peut aussi se l'interdire de peur que l'employeur se rende compte que le conjoint, la conjointe... voilà.
C'est le prochain combat, ces discriminations administratives, entre autres ?
Ah bah c'est un combat que je mène déjà, et notamment je mène un combat qui peut paraître futile, c'est le combat des formulaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, avant les formulaires, en fait, c'était sur papier, et on avait la possibilité de les rayer. Ça paraît futile, ça paraît bête de le dire, mais on avait la possibilité de corriger, et on n'était pas bête devant un papier, on pouvait corriger. Quand la question est rendue obligatoire pour soumettre le formulaire, eh bien, on ne peut pas répondre au formulaire. Et ça m'est arrivé pour des formulaires de crèche d'entreprise, notamment. Je ne pouvais pas inscrire mon enfant à la crèche parce que je ne pouvais pas mettre le nom et la profession du père. Google l'a déjà fait. C'est déjà un peu caché derrière la tech pour justifier d'une discrimination. Et là, en fait, non. Pour moi, la tech, elle est là pour nous servir. Elle est là pour servir les citoyens et citoyennes dans leur universalité. Et le fait de travailler pour moi dans la tech... Ça a été aussi un facteur d'émancipation parce que c'était possible soudainement de corriger les choses. D'abord, on peut démontrer de manière intangible. Là, ton formulaire, il n'est pas inclusif, il me discrimine. C'est intangible et c'est vrai, tu peux pas le nier. Et en plus de ça, on peut le corriger et c'est très rapide. Et donc ça, c'est agréable parce que finalement, les biais de la société, ce qu'on vit au quotidien, on ne peut pas le corriger aussi rapidement que ce qu'on peut corriger dans la tech.
Il y a un chiffre qui m'a frappé. 34% des lesbiennes ont quitté leur entreprise suite à des discriminations et 45% d'entre elles ont eu des pensées suicidaires. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ?
Je suis dévastée d'apprendre qu'encore aujourd'hui... On ne parvient pas à faire société, on ne parvient pas à avoir suffisamment de capacité à accueillir la différence dans l'entreprise. L'entreprise reste pour moi un lieu fascinant. L'entreprise, finalement, c'est le lieu où on se réunit, on travaille ensemble sur un même projet et on est censé faire fi de nos différences, en tout cas mettre de côté certaines choses pour travailler ensemble dans une union commune. Et donc, pour moi, l'espace de l'entreprise doit être ce lieu de l'accueil de la différence. Et pas au sens simplement de dire « chacun pense ce qu'il veut ». C'est comment faire en sorte pour que on arrive à se reconnaître en tant que professionnel, en tant que personne, et qu'on ne reste pas sur des postures dogmatiques. Parce que ce que j'ai constaté quand même, c'est que quand on parle de lesbophobie, quand on parle de discrimination homosexuelle de manière générale aux homosexuels, on est face à des personnes qui ont des postures. Or, moi, quand je vous parle de la lesbophobie, je vous parle de ma vie, en fait. Je parle de moi. Aujourd'hui, je ne peux pas décorréler de ma vie Vous me parliez de coming out. Moi, je vous parle simplement de ma femme, en fait. Je vous parle de mon enfant. Je vous parle de mon parcours de vie, des difficultés que j'ai eues à avoir cet enfant, par exemple. À faire reconnaître mes droits au congé, payé pour faire ma PMA. Enfin, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont réelles, qui sont tangibles. Et vous, vous me parlez de votre posture idéologique d'opposition. Mais en fait, on n'est pas au même niveau. Et nécessairement, je vais être plus affectée puisque moi, ça vous parlez de ma vie. Et donc ça, c'est un truc qui est important. Et je trouve que c'est assez peu aujourd'hui questionné en entreprise, cette différenciation entre la vie des gens et la vie des gens, mais L'AVIS. Et je pense qu'on n'a pas à avoir d'avis sur la vie des gens. Et ça, ça ne doit pas être toléré dans le cadre du travail. Et j'ai vu finalement assez peu d'entreprises qui étaient aujourd'hui en capacité pleine et entière de s'outiller et finalement d'être pionnier dans cette manière de dire non aux discriminations de discours, discriminations de posture. Et ce sont celles-là qui font le plus mal.
Est-ce qu'il y a des petites phrases au quotidien qui font qu'effectivement, on se sent malgré tout discriminé ?
Oui, alors moi, en fait, le problème, c'est que c'est tellement normal pour moi d'être lesbienne et c'est tellement normal d'être dans une famille homoparentale que mon enfant ait deux mamans. En fait, on me ramène au modèle hétérosexuel, ça me surprend beaucoup parce que c'est pas ma réalité. Mais dès lors que nous sommes les deux à nous occuper de lui, je vois bien que les gens ne nous reconnaissent pas comme famille. Personne ne nous reconnaît que cet enfant, il est présent avec ses deux mamans. On va toujours présumer qu'on est sœur ou que je suis sa belle-sœur. Voilà. Et puis après, pour les petites phrases, ça va être pas mal de trucs de « oui, quels yeux magnifiques, il a les yeux de son papa ». Et moi, je dis « il a les yeux magnifiques de ma femme ».
Femme et lesbienne, est-ce qu'on est à fond dans l'intersectionnalité ? Est-ce que le fait d'être, j'allais dire, deux minorités à la fois, une femme, enfin, considérée comme une minorité, et une lesbienne, c'est un vrai sujet, c'est...
Oui, je pense qu'on n'échappe pas en tant que femme, en tout cas si on est perçue en tant que femme, on n'échappe pas de toute façon au stéréotype en tant que femme en entreprise, déjà. Qu'on soit out ou qu'on ne le soit pas. Donc déjà, en fait, on fait face au quotidien, les discriminations habituelles auxquelles font face les femmes, je vais quand même les citer, mais le fait d'être moins entendue, le fait d'être interrompue, le fait d'être considérée moins experte, le fait d'être considérée par les managers comme des personnes ayant besoin de gagner en confiance plutôt que de gagner en technicité. Enfin, ce sont des discriminations qui sont présentes et qui, aujourd'hui, créent un nivellement vers le bas dans la carrière des femmes.
Votre attitude par rapport à tout ça, vous m'avez dit, moi j'ai choisi, j'ai deux lignes de conduite, prendre mes responsabilités et être exposée.
Du fait de l'invisibilité des lesbiennes dans le monde du travail, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui prennent la parole sur ce sujet. Il y a très peu de personnes qui sont visibles en tant que lesbiennes, citez-moi. Des lesbiennes visibles aujourd'hui professionnellement. Il y en a très très peu, elles se comptent sur le doigt de la main. Des lesbiennes en politique, des lesbiennes dans le sport, des lesbiennes... On va dire des femmes qui aujourd'hui sont à out et peuvent être des modèles auxquels des jeunes filles peuvent s'identifier et se dire oh, c'est cool quand même d'être lesbienne. Et donc ma première responsabilité, ça a été en fait au moment où le tweet que j'ai diffusé en 2019 pour faire changer l'algorithme de Google, au moment où il y a eu cette couverture presse, ça a été de se dire, est-ce que je poursuis ou est-ce que je ne poursuis pas ? Moi, j'avais très, très peur que cette exposition médiatique ait un impact sur ma carrière. Et en même temps, j'étais suffisamment mature, parce que j'étais arrivée à 30 ans, et j'étais suffisamment mature pour me dire, en fait, si ces personnes, ça les gêne que j'ai fait ces articles et que je sois active dans ce combat-là, alors je n'ai pas envie de travailler pour elles. Finalement, ce choix-là, je me souviens bien, c'était un choix conscient hein, de se dire, est-ce qu'on y va ? Est-ce que je mets mon nom ? Est-ce que je mets mon prénom ? Est-ce que je mets ma photo ? Est-ce qu'on s'expose ? Est-ce qu'on prend le risque de ne plus pouvoir voyager dans certaines régions ? Le risque d'être visible ? La visibilité, on paye un prix, hein, on paye des prix, on paye des menaces, on paye des dépôts de plaintes et des choses comme ça. Hein. Enfin, faut pas se leurrer non plus sur la réalité de ce que c'est qu'aujourd'hui être une femme lesbienne visible. N'empêche que au quotidien, véritablement, ça m'a apporté énormément d'opportunités. Donc vraiment, j'encourage les personnes qui hésiteraient aujourd'hui à être visibles, à parler, à le faire à visage découvert, à y aller. Parce qu'en réalité, je dis, il n'y a pas eu tant que ça de choses négatives. Il y a surtout eu des choses très très positives au quotidien.
Des sujets comme l'accès à la PMA ou la parentalité, est-ce que c'est des sujets qui modifient la visibilité ?
L'opposition qui est souvent donnée dans le cadre professionnel au fait qu'on ne veuille pas parler de l'homosexualité, c'est de se dire en fait ça appartient à la sphère privée. Moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est mais on va pas parler de sexualité quand même au travail, on va pas parler quand même, ça regarde personne, c'est votre vie. Or, en fait, on le démontre bien, hein, l'entreprise s'implique de plus en plus dans la vie de ses salariés. Et quand on parle d'homosexualité, quand on parle de lesbianisme, on ne parle pas de sexualité. Au travail, on ne parle pas de sexualité. On parle de mode de vie, on parle d'être soi, on parle d'être en capacité d'être la personne la plus authentique au travail. Alors, effectivement, tout ce qui va être relatif à la légalité, l'accès à la PMA, c'est la dernière en date, c'est 2021, l'accès à la PMA, ça a contribué finalement à légitimer l'accès à la parentalité et à l'homoparentalité.
Comment on peut faire pour sensibiliser les managers, les collaborateurs, améliorer les choses dans l'entreprise ?
Je pense sincèrement qu'il faut investir dans le vivre ensemble. Ça peut paraître bête, mais moi, ayant travaillé dans les secteurs éducatifs, ce sont des choses auxquelles je crois. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de confronter ces biais peut-être aux machines, parce que est-ce que ma politique RH que j'ai signée tout en haut, elle est bien diffuse ? Et comment elle se diffuse ? Elle se diffuse par des points de contact. À un moment donné, il faut qu'il y ait des actions de terrain qui aillent jusqu'au A-level, quoi. Et que ce soit pas que au niveau du siège social à Paris, qu'effectivement, on signe des chartes quand on va rencontrer les personnes qui sont présentes dans les plus basses instances. Et pour que ça infuse, il faut qu'il y ait des actions concrètes et des lieux de rencontre. Il va y avoir un développement massif des intelligences artificielles au sein des entreprises, au service des entreprises, pour répondre aux questions, pour accéder à la base de données. Ça va être incroyable. Et c'est dès maintenant qu'il faut faire ce travail-là, ce travail de sensibilisation aux personnes, parce que ce sont elles qui vont aller alimenter les intelligences artificielles, ce sont elles qui vont aller faire le choix des bases de données sur lesquelles on va entraîner ces intelligences artificielles. Et si elles ne sont pas en mesure de conscientiser les biais, alors ces biais-là vont être systématisés et vont produire encore plus de discrimination de manière systématique. Et ce sera encore pire parce qu'on se dira, mais en fait, c'est objectif parce que c'est fait par une machine. Or, toute machine est subjective.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
On me souhaite une vie lesbienne heureuse parce que c'est possible.
Vous venez d'écouter Fanchon Maillot-Doncourtel dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.